Alors bonjour à toutes et à tous, merci encore d'être présents. C'est bien, vous n'avez pas faim, donc vous restez faim de savoir et de culture sûrement, mais en tout cas vous restez là pour nous écouter. Donc c'est un véritable plaisir. On va beaucoup parler de bande dessinée, mais pas seulement, on va parler aussi cinéma, séries autour de la géopolitique et comment les auteurs ou comment les œuvres de science-fiction pensent leur géopolitique. Alors, pour cette conférence, enfin plutôt table ronde, pardon, donc on a avec nous Audrey Alouette, qui est scénariste de BD, qui a réadapté Princesse Sarah, le dessin animé culte, en une œuvre steampunk donc chez Soleil Édition, et qui est aussi autrice de l'imaginaire aux éditions ActuSF avec Les Poisons de Catharz. On a à côté d'Audrey Denis Bajram, scénariste et dessinateur de très connu pour sa mythique série Universal War One aux éditions Delcourt et Casterman pour la saison 2. Et à côté de Denis, nous avons Alain Musset, qui est géographe et directeur d'études à l'EHESS, qui a écrit de nombreux ouvrages autour de la science-fiction, notamment de New York à Coruscant. Donc, et cette géofiction, donc Alain connaît plutôt bien Star Wars, et pas que. Il vient d'écrire « Autant embrasser un Wookiee » et « Sans réplique culte » de la saga de Star Wars aux éditions Duno. Alors j'en profite pour avoir des créateurs et des scénaristes avec nous pour leur demander, tout simplement, on va commencer avec Denis. Quand Denis Bajram, quand vous avez créé Universal War One, qu'est-ce que vous avez pensé pour créer ce monde et cette géopolitique du monde de cette série?
Donc c'est vieux, hein, parce que j'ai créé tout ça en 97. Fin 97, je changeais d'éditeur et on me laissait carte blanche, ce qui est pour un jeune auteur une occasion assez unique. Et en quelques semaines, j'ai écrit en fait les 18 tomes d'Universal War, c'est-à-dire que trois sagas de 6 tomes, j'ai écrit un squelette complet. Le monde, il s'imposait très naturellement à l'époque, parce que je lisais pas mal à l'époque de différentes revues, dont Le Monde Diplomatique, qui s'interrogeait énormément à l'époque sur la disparition des États au profit des entreprises privées. Et entre autres, même éventuellement dans le cadre à l'époque de la prise de contrôle de l'Afrique, etc., ce que finalement a plutôt fait la Chine. Je m'étais vraiment dit, bon, ok, est-ce que l'avenir, ça va être ça? Ça va être les États de plus en plus faibles, des corporations de plus en plus fortes qui vont dicter leurs lois. Et j'avais transposé ça en spatial. Donc on a d'un côté les restes de l'ancienne puissance publique, qui est la fédération de tous les États, une sorte d'ONU qui a occupé toute la Terre et qui a pour rôle principal, on le comprend assez vite, d'avoir une armée pour garder sa propre existence. Et en face, on a toutes les planètes autour dans le système solaire qui appartiennent en privé aux compagnies diverses et variées qui ont colonisé ces planètes. Et donc, on se retrouve dans le système solaire avec le conflit entre la puissance publique et la puissance privée. C'est vraiment une sorte de métaphore poussée de cette crispation-là. Alors, à l'époque, je ne pensais pas qu'on irait aussi vite dans ce genre de choses, parce que depuis, on a vu s'accélérer la disparition de l'État et la montée en puissance du privé, entre autres la finance, toutes ces choses-là qui ont pris une place disproportionnée dans nos vies. Donc voilà, en tout cas, c'est cette géopolitique-là, elle s'est imposée par cette idée du conflit public-privé.
Et alors, mais quand on est scénariste et qu'on veut créer une œuvre, c'est quoi les premières questions qu'on pense, en fait, sur la feuille blanche de papier?
C'est comment je vais m'en sortir? Ça, c'est la première. La feuille blanche, ça reste pour tous les auteurs, je pense, le moment le plus effrayant. Le moment où on a une espèce de fatras d'idées dans la tête. Si on n'a pas il y a certains boulots qui commencent par une idée forte directrice. Mais si on a plusieurs idées directrices, alors là, ça peut être des heures à cogiter, à essayer de mettre un ordre et surtout de trouver, finalement, de décider quelle sera l'idée centrale et puis lesquelles viendront se nourrir cet arbre-là pour créer à la fin cette espèce de forêt que peut être un récit. Et là, je dois dire que, en l'occurrence, sur Universal War, j'ai pas eu ce problème parce que j'ai écrit tout ça en 3 semaines. Donc, ça a été j'appelle ça une éruption créative. Je pense que j'avais, depuis que j'étais gamin, lu énormément de livres de science-fiction, réfléchi à tout ça. J'avais une sorte de background qui avait fait une chambre magmatique, vous voyez, sous pression, et qu'elle a explosé d'un seul coup, et que, en fait, tout est ressorti, et tout est à peu près sorti dans l'ordre. Donc, Voilà, c'est pourquoi, comment, je ne sais pas. J'ai jamais eu depuis de moment. Alors, est-ce qu'il y avait de la cocaïne dans l'air de mon appartement et j'étais pas au courant? Est-ce que j'ai été visité par des extraterrestres qui ont mis des implants pour m'accélérer tout ça? Je ne sais pas, mais il y a eu un truc. Voilà.
Très bien. Audrey Alouette, comment on réfléchit alors quand on crée par exemple Princesse Sarah, quand on crée, donc on se réinspire d'une œuvre existante et on imagine un monde steampunk, à quoi on pense quand on parle de géopolitique? Comment vous avez créé cet univers? Comment vous l'avez régi d'un point de vue politique?
Alors, dans le cas de la BD, et surtout quand on fait des séries, toi, tu as peut-être écrit tous tes tomes d'un coup. Moi, c'est absolument pas mon cas. Comme les tomes se font les uns après les autres, on a quand même le temps de réfléchir et de faire évoluer son univers au fil des tomes. Dans le cas de Princesse Sarah, par exemple, c'est vrai que je m'étais appuyée sur une œuvre romanesque préexistante, mais on s'en est très très vite écarté, d'abord parce qu'on avait décidé de faire du steampunk avec la dessinatrice Nora Moretti, et puis parce que ensuite, on l'a fait grandir, etc. Elle devient ingénieure en chef et chef d'entreprise d'une usine d'automates. Et on a complètement rompu avec le roman, on est parti sur la suite. Très vite, s'est posé la question justement de la place de la femme parce qu'on faisait du steampunk victorien. Alors, d'ordinaire, le steampunk victorien est traité avec un regard actuel sur les villes en particulier, voilà. Mais malgré tout, les auteurs essayent de rester dans l'époque. C'est-à-dire que dans le cas du sexisme, par exemple, les héroïnes se retrouvent toujours face au sexisme et doivent l'affronter. Alors, les auteurs font bien comprendre que c'est pas normal, mais malgré tout, elles essaient de ressusciter le sexisme du 19e. Avec Nora, on a décidé justement de faire finalement une œuvre très contemporaine, même si on restait au 19e siècle, parce qu'on a décidé, dès le 4e tome, de replier tout ça et de faire quelque chose de complètement contemporain en termes d'idéologie. Et en particulier, on s'est beaucoup attaché à la place de la femme dans l'espace urbain, c'est-à-dire que on a décidé, et puis pas seulement de la femme, d'ailleurs aussi des personnes racisées, on a décidé que voilà, même si on était au 19e en Angleterre, qui était sexiste, qui était raciste, etc., on allait rendre leur place aux femmes, aux personnes racisées, aux femmes racisées aussi, qui sont souvent très très sous-représentées. Et du coup, on a décidé d'en mettre en particulier à des postes à responsabilité. Dans les œuvres de fiction, les femmes et les personnes racisées sont souvent complètement invisibilisées. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez un policier, un boulanger, n'importe quel commerçant, n'importe quel politicien, etc., en fait, tous les gens qui font partie du décor, ce n'est même pas des personnages secondaires, c'est des personnages tertiaires. C'est-à-dire qu'ils sont là vraiment pour faire le décor et pourraient presque être remplacés par des robots. C'est presque toujours des hommes blancs. Et nous, on a décidé de repenser vraiment la géopolitique, mais ça demande un vrai exercice parce que naturellement, nous aussi, on avait tendance à mettre des hommes partout. Et on a décidé de basculer la chose complètement et on fait très attention à mettre des femmes racisées, des hommes racisés, etc. C'est le cas dans le dernier tome, par exemple, où il y a un club des automates très, très, très puissant avec les grands créateurs d'automates d'Angleterre, où là, on a fait très attention à qui on nommait, etc. On a pensé aussi aux personnes invalides et tout ça.
En même temps, c'est des problématiques qu'on retrouve en ce moment. C'est des grandes questions très modernes, hein, l'espace des femmes dans la ville.
C'est des grandes questions d'urbanisme. Et on a justement lu des articles là-dessus et c'est pour ça ça a traversé les articles pour arriver jusque dans nos livres et dans l'esprit de nos jeunes lecteurs, on l'espère. Hein.
Alain Musset, quelle vision vous avez alors de la géopolitique dans la science-fiction, vous ?
D'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que moi, je suis un vampire. C'est-à-dire que je ne suis pas...
Il fait jour pourtant. Hein,
non, mais je ne suis pas un créateur, je ne suis pas scénariste, je ne suis ni scénariste ni dessinateur. C'est-à-dire, moi, je travaille à partir des créations des autres. Et donc, j'analyse leur travail pour étudier nos sociétés contemporaines. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui est écrit, de ce qui est dessiné, j'interprète et je dis, là, ce sont les grands problèmes contemporains auxquels on fait face. Un exemple, donc Bajram l'a dit, le problème des corporations. Hein, les grandes corporations, les grandes compagnies internationales qui prennent le pas sur les États et sur les nations, et disons-le aussi, je sais que parfois c'est une grossièreté, mais sur les peuples, eh bien, c'est important de savoir comment la science-fiction interprète cette transformation du monde contemporain dans un monde qui est globalisé, dans un monde qui est de plus en plus financiarisé et où le pouvoir va s'opérer de manière, on va dire, virtuelle, désincarnée, déterritorialisée. Et il y a un roman, par exemple, de Max Barry je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous qui connaissent, c'est Jennifer Government. On est dans le futur. Il y a des États, mais ils ne jouent pas vraiment un rôle important. Ce sont les transnationales qui se répartissent le pouvoir, qui se répartissent les territoires et qui se répartissent les marchés. Et les gens sont identifiés par l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc Jennifer, elle, c'est une agente du gouvernement. Donc elle s'appelle Jennifer Government. Hein? Mais si vous travaillez chez McDonald's, vous allez vous appeler Jean-Pierre McDo. Hein? Si vous travaillez chez IBM, vous serez Catherine IBM, hein? Etc., etc. Et ça, c'est une évolution. On a l'impression que non, mais c'est de la science-fiction. Ne vous faites pas d'illusions, vous y êtes déjà dedans et vous êtes de plus en plus identifié à ce que vous êtes dans la société de production et de consommation. Et ça, la science-fiction est très importante.
C'était aussi le cas, d'ailleurs, d'une façon... Enfin, la réflexion sur le nom, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Je pense au voyage de Chihiro, de Miyazaki, que tout le monde connaît, je pense, où justement, quand elle arrive dans cette espèce de grand terme, etc., qui est quand même, même si c'est très onirique, une figure capitaliste, on lui prend, enfin, la première chose qu'on fait, c'est de lui prendre son nom, justement.
Et là, c'est aussi quelque chose, on parle du futur, mais on peut parler aussi du passé. Hein. N'oublions pas que les esclaves, notamment les esclaves noirs aux États-Unis, ils avaient leur prénom, mais ensuite, hein, ils avaient le nom de leur propriétaire. Hein? Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi en Amérique latine. Quand vous avez, moi je suis spécialiste de l'Amérique latine, pourquoi y a-t-il autant de Fernandez, Rodriguez, Alvarez et si peu d'autres noms? C'est parce que les Indiens qui appartenaient de manière indirecte à un grand propriétaire portaient le nom du grand propriétaire. Et comme par hasard, ils s'appelaient Alvarez, Fernandez, etc.
Et c'est pour ça que lors du mariage, les femmes prennent le nom de leur mari.
Alors,
historiquement, c'est ça.
C'est tout à fait ça. Et alors, avec des complications supplémentaires, quand vous êtes... Bon, j'ai longtemps vécu au Mexique et je continue à y aller. Il y a un nombre très réduit de patronymes, en partie à cause de ça. Donc, vous savez, moi, j'ai connu quelqu'un, parce que vous prenez le nom du mari. Et au Mexique, c'est vous appelez, Martinez, vous épousez un Alvarez... Vous allez devenir Martinez de Alvarez. C'est-à-dire, vous êtes Martinez de Monsieur Alvarez. Il y a une propriété qui s'impose. Mais comme vous avez un double nom, moi j'ai connu une dame, et je ne blague pas, qui s'appelait Martinez Martinez, nom du papa, nom de la maman, de Martinez, parce qu'elle avait épousé un Martinez. Hein, donc vous voyez ce que ça donne. Et pour ma femme... Quand elle faisait des papiers officiels, nous sommes français, mais les papiers officiels au Mexique, donc elle, son prénom, son nom de famille, c'est Bertrand, moi, c'est Musset, et donc elle s'appelait Marie-Hélène Bertrand de Musset. Je trouve que ça faisait vraiment classe.
Dommage qu'elle ne soit pas appelée Alfred. Mais...
c'est ce qui manquait.
En tout cas, on l'a un peu évoqué avec Denis tout à l'heure, cette dualité entre public, privé, cette lutte-là, on va dire, on va dire que les grandes entreprises, on peut parler des GAFA notamment, qui prennent de plus en plus d'importance, elles se voient dans beaucoup de BD d'anticipation. On peut parler de Travis, de Fred Duval, mais aussi de Golden City, qui imagine une île, entre guillemets, un vaisseau où il n'y a que des riches qui vivent entre eux. Est-ce que, finalement, on parle de BD d'anticipation, mais ça commence déjà à être le cas? Il y a aussi des ghettos de riches, je crois, au Mexique, hein, qui existent, et dans d'autres pays.
Alors, pas qu'au Mexique. Tu as cité à juste titre Golden City, donc de Pecker, Shell et Rosa. C'est un des processus actuels. Alors là, dénoncé encore une fois, vous allez le dire, par la science-fiction et par la BD de science-fiction, de la séparation, la ségrégation de plus en plus forte entre les catégories sociales. Et là, on a une véritable sécession, c'est-à-dire que les riches de Golden City, au lieu de vivre sur une terre qui est contaminée, violente, etc., vivent sur une île artificielle, hein, qui est paradisiaque, bien évidemment, et jamais ils n'abordent la terre. C'est une ségrégation parfaite. Il y a une autre ségrégation, je ne sais pas si vous avez vu le film Elysium de Blomkamp. Alors là, ça va encore plus loin dans la séparation entre les classes, puisque les plus riches vivent carrément dans un satellite artificiel au-dessus de la planète. Et les pauvres vivent dans un état misérable. Et ce qui est rigolo, puisqu'on parlait du Mexique, j'y reviens, le Los Angeles du futur, on est en 2143, où je ne me souviens plus exactement la date, vous avez les images au début du film de Los Angeles avec ses quartiers pauvres, etc. etc. Ce n'est pas de l'imagination. Ils n'ont pas fait de décor. J'ai travaillé sur ces quartiers-là. On est à Mexico, dans les quartiers qui s'appellent Iztapalapa. C'est-à-dire que le futur dramatique de Los Angeles, c'est en fait la réalité contemporaine de Mexico et d'Iztapalapa. Et là, je crois, encore une fois, la science-fiction a son mot à dire pour dénoncer les mots contemporains.
Quand vous avez créé Universal War One, Denis Bajram, pour vous, c'était évident que, comment vous anticipez votre fiction, ça allait être une guerre entre public et privé.
On était après la chute du mur. On était dans une phase où on a cru un peu bêtement que les conflits entre États allaient quand même se stabiliser pendant un certain temps. On a vu renaître cette guerre froide. Aujourd'hui, elle est multipolaire. Elle est entre la Russie, la Chine, les États-Unis. L'Europe là-dedans est bien baladée parce que bien peu unie. Et puis alors, bon, on rajoute là-dessus la composante terroriste, ces micro-états terroristes qui parfois arrivent à renverser une région complète. Moi, la question du terrorisme à l'époque, c'était celle de l'Afghanistan. On avait ça, donc j'avais gardé ça en tête et j'étais dans l'idée, quand par exemple je montre, après la destruction de la Terre, je montre les humains réfugiés sur Mars. L'image que j'en avais à l'époque, c'était en effet les images d'Afghanistan ou un petit peu de la Palestine par rapport à Israël, où il y a quand même un contraste de richesse entre les deux côtés de la frontière qui est quand même vraiment spectaculaire en oubliant tout le reste. Je ne pensais pas à l'époque, évidemment, qu'il y aurait le bouleversement du 11 septembre et toutes ces choses-là. On était bien avant ça et qu'en fait, ces zones de contraste qu'on voyait à l'époque allaient se multiplier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des états gaziers ou pétroliers hyper riches et à quelques centaines de kilomètres, on a Daesh qui massacre des gens, quoi. On est dans une société où on aperçoit ce morcellement riche-pauvre, violence, pas violence, protection, destruction, se répéter un peu partout. Il n'y a pas vraiment qu'en Amérique du Sud ou en effet au Mexique, etc. C'est un phénomène général, alors qui touche pour l'instant pas la Chine à vue de nez, mais parfois je me demande où est-ce qu'on en est en Europe et où est-ce qu'on va bientôt en être partout, parce que c'est vraiment le phénomène montant. Et inconsciemment, alors ça vraiment sans y réfléchir, à l'époque je l'avais inscrit, parce qu'on a ces humains réfugiés sur Terre qui sont finalement les éternels réfugiés que créent tous les conflits récents, et en face on a cette civilisation très intelligente, qui a tout compris à la vie et à la mort, et qui vit sur une autre planète, et puis qui essaye d'administrer comme ils peuvent les réfugiés, quoi. Et on est vraiment exactement en phase du changement géopolitique récent, où la plus grosse zone de conflit, et c'est finalement pas avec la Corée du Nord ou avec la Russie, mais c'est bien entre ces zones abandonnées des hommes, où il y a tellement d'hommes, malheureusement, ces endroits qui ne veulent pas être touchés par cette pauvreté et cette dureté. On voit bien avec l'Europe qui a fermé ses frontières à tous les réfugiés, Europe qui elle-même pourtant avait produit des réfugiés au kilomètre à peine 50 ans plus tôt, enfin 70 ans plus tôt dans la guerre, quoi.
Pour vous, et notamment Audrey, vous êtes des auteurs, auteurs et autrices de science-fiction, vous produisez de l'anticipation. Comment, en tant qu'auteur ou scénariste, vous pouvez influencer vos lecteurs? Est-ce que vous y pensez quand vous créez un univers, puisque finalement la science-fiction, ça sert aussi à réfléchir sur ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt utopique sur cette vision-là?
Moi, je pense même qu'à ça. Alors c'est intéressant, depuis le temps que je connais Denis, je sais que lui c'est le pessimiste et moi je suis plutôt l'optimiste. Lui, de toute façon, Denis, quand on l'écoute parler, c'est « on va tous mourir !» Oui, bon, d'accord, mais dans longtemps peut-être.
La question, c'est de la date, voilà.
Voilà. Non, moi je suis plutôt optimiste, donc justement je réfléchis beaucoup avant d'écrire un livre à ce que je vais faire passer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'hier, j'avais des discussions avec les collègues et je leur disais qu'à chaque fois que je lisais un livre, je me fichais de l'emballage, en fait. C'est-à-dire, je suis toujours très préoccupée quand je lis un livre par la question centrale, c'est qu'est-ce qui rampe ? qu'est-ce qui rampe dans le livre. Et je sais tout de suite quand je l'ai, parce que c'est très difficile. En fait, c'est assez facile de mentir sur une œuvre cinématographique. C'est très difficile de mentir sur l'écriture parce que c'est quelque chose de très très transparent. Et quand vous lisez un livre, moi je sais tout de suite si l'auteur c'est quelqu'un que je vais avoir envie de connaître et d'aimer ou quelqu'un que je vais détester. Et je sais ce que la personne transmet dans son bouquin. Alors des fois, il y a des éditeurs qui vont intervenir, des conjoints, etc., qui vont amener leurs pattes. D'ailleurs, c'était le cas dans Le Frankenstein de Mary Shelley, où on peut voir exactement tous les passages que Percy a rajoutés qui font une vraie fracture avec le reste du texte. Voilà, donc des fois, il y a des livres à deux voix, comme ça, qu'on arrive à lire leur intertextualité. Mais justement, ce qui rentre dans un livre, je pense que c'est capital. Et je pense que nous, auteurs, on a quand même un très grand pouvoir. Et surtout les auteurs populaires que nous sommes, les auteurs mainstream que nous sommes, parce qu'on touche quand même beaucoup de gens. Et je prends mes responsabilités par rapport à ça. J'écris quand même beaucoup pour la jeunesse et je fais extrêmement attention à ce que je transmets. Bon, on parlait de Princesse Sarah qui est une série d'empowerment, mais il n'y a pas que ça, j'en ai fait plein d'autres. Et j'avoue que parfois, quand je lis des séries qui parfois cartonnent auprès d'un grand public, qui transmettent des valeurs nauséabondes, racistes, sexistes, etc., ça me met réellement dans une colère noire. Ça m'est déjà arrivé d'engueuler un collègue pour l'idée qu'il avait fait passer dans son bouquin. Et ça me fiche littéralement en rage, en fait. Non, je pense qu'on a une responsabilité énorme. Alors, nous, on est auteurs, donc on écrit des histoires, on va essayer de transmettre des idées. Mais après, je veux dire, chacun fait les choses à sa portée. On est quand même des millions à vouloir que ça se passe bien dans le monde. Et d'accord, il y a quelques crevures qui vont pas dans le bon sens de l'humanité. Mais enfin, heureusement, on est nombreux à tendre le dos et à vouloir pousser dans l'autre sens.
Alain Musset, est-ce que la science-fiction peut avoir un impact, vous pensez, sur les spectateurs, les lecteurs?
J'espère. Autrement, je crois pas la peine d'en faire. On n'est plus à l'époque où les gens écrivaient des utopies. Ça, c'est quand même passé. Il y a à la place des gens qui anticipent le futur, qui donnent des visions du futur, qui sont en général pessimistes. La science-fiction en général est pessimiste. Audrey fait partie des rares optimistes qu'il y a, mais en général c'est pessimiste. Pour en avoir lu des centaines et des centaines à la fois de romans, de bandes dessinées, etc. Par exemple, puisque moi je travaille sur la géographie urbaine, trouvez-moi une œuvre de science-fiction optimiste sur l'avenir des villes, je vous souhaite bien du courage. Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un seul, c'est « Demain les chiens » de Clifford Decimac, qui parle des villes en disant « Mais les villes, c'est très très bien, c'est là où se fait la synthèse de l'humanité, ou là où il y a des synergies, etc. Mais ça se passe à un moment où il n'y a plus de villes sur la Terre, où il n'y a plus d'humains sur la Terre, il n'y a que des chiens. Ce sont des chiens qui sont d'ailleurs intelligents, qui parlent, et qui organisent d'ailleurs des congrès. Il y a des chiens sociologues, des chiens historiens qui viennent pour discuter et qui parlent de ces histoires d'humains, des histoires de grand-mère évidemment, d'humains qui vivaient dans des villes en disant « mais c'est absurde, comment peut-on vivre dans des trucs pareils ?» Voilà.
Ceci dit, pour un chien, c'était le paradis, il y avait plein de réverbères.
C'est vrai, mais là, ce sont des chiens qui n'ont plus besoin de réverbères, ils sont passés à l'étape supérieure. Donc c'est en général plutôt pessimiste. Et c'est vrai que j'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé. Et les gens me disaient « oui, mais il y a ça », je dis « mais attention, hop, regardons exactement ce que ça veut dire ». Et puis, donc, ça, c'est le message. Je pense que le message est fort parce que des gens qui s'intéressent à la fiction, il y en a beaucoup. Donc là, Audrey le disait, vous avez tous les deux un impact très fort et je dirais beaucoup plus fort que nous du côté des sciences sociales, puisque l'idée quand même, c'est de confronter la science-fiction qui est créée et puis celle que nous étudions. Honnêtement, en sciences sociales, quand on a un bouquin qui se vend à 500 exemplaires, c'est le prix Nobel. L'éditeur, il sable le champagne, etc. Vous en êtes à d'autres tirages.
Oui, mais heureusement, les auteurs de science-fiction vous lisent et puis après, les idées se retrouvent et se transmettent. Mais
ça, c'est gentil.
Pour parler des villes, je sais que c'est pas vraiment de la science-fiction, même si on dit qu'il dépasse vraiment les frontières de la fantaisie. Mais la raison majeure pour laquelle je suis optimiste, je pense, c'est que je suis une très très grande femme de Terry Pratchett. Et sa vision d'Ankh-Morpork, je trouve, est quand même intéressante, parce que même si c'est une ville qui a tous les vices possibles et imaginables, y compris et surtout celui de la pollution, avec son fleuve qui prend littéralement vie tellement il est pourri, il a quand même une vision ultra optimiste de l'évolution de la ville. D'ailleurs, on le voit dans son œuvre au fil des livres, où la ville se développe toujours davantage, elle a presque sa personnalité. Et malgré tout, même si c'est une personnalité qui est pleine de vices, qui est pourrie, c'est une personnalité joyeuse. Et c'est, comment dire, même si c'est les bas-fonds de l'humanité, elle tend quand même vers quelque chose de supérieur.
Oui, c'est vrai, à condition d'accepter des conditions qui sont quand même pas simples, pas faciles, la pollution et autres. Et là, ça me fait penser, et vous avez raison, ça pose tout le problème du fameux indice de bonheur humain. À la place du PIB, voyons quel est mesurons le bonheur. Est-ce que les gens sont contents, satisfaits, etc. Donc c'est un indice qui existe. Et comme par hasard, c'est dans les pays les plus pauvres que finalement l'indice de bonheur humain est le plus fort. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie aussi qu'il y a peut-être plus de résilience chez les pauvres que chez les riches. Mais aussi une capacité d'accepter ce que nous considérons comme inacceptable sous prétexte qu'effectivement on est pauvre. Et je donne un exemple, qui est le résultat de mes recherches. Et donc je vous remercie Audrey d'avoir dit ça. Je travaille sur des problèmes de justice sociale, de justice spatiale, et notamment dans des quartiers très pauvres au Nicaragua. Quand je pose la question, ça m'est arrivé, de dire qu'est-ce qu'il faudrait que la mairie fasse pour améliorer la condition des habitants. Mon quartier où je travaille, c'est Soutiaba, c'est un quartier indigène. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Oui, une chose importante, il faudrait repeindre l'église. » Je dis « Oui, effectivement, elle en avait besoin. » Je lui dis « Mais vous avez l'eau, vous avez l'électricité ?» Il me dit « Non. » »« Non, mais vous ne pensez pas que ce serait important ?» Et il me dit « Oui, ce serait important, mais l'Église d'abord. » Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que nous, nos grilles de lecture de matérialistes, encore une fois, c'est il faut l'accès aux biens premiers. Je veux dire, l'eau, l'électricité, la santé, etc. Lui, il le place sous un angle complètement différent. Ce qui est important, c'est la reconnaissance de la communauté. L'Église, c'est un bien commun dans un espace public, et c'est ça qu'il faut valoriser. Et moi, ça me force évidemment à réfléchir sur qu'est-ce que signifie le progrès, qu'est-ce que signifie le bonheur. Je reste convaincu que les biens premiers sont essentiels, mais il faut penser d'une autre manière, et la science-fiction nous aide aussi à penser d'une autre manière.
Denis.
Pour ce qui est de la responsabilité de l'auteur au moment où on fait, moi, je me suis quand même retrouvé dans une situation vraiment ambiguë au moment du 11 septembre, puisque de fait, j'étais en train de travailler sur le tome d'Universal War One de la destruction de la Terre, et qui commence à New York, précisément, et on voit même à peu près le wormhole rentrer au niveau du World Trade Center. Donc, j'étais sur le storyboard de ces pages-là, et les pages qui étaient en cours de parution à l'époque dans l'Enfus Mag, qui prépubliait, montraient l'arrivée de nos héros dans une navette qui se posait à New York, dans le spatioport de New York, qui en fait, de manière simple, avait été une tour construite au centre de New York. Et donc, il y avait un texte avec marqué « C'est pratique, ces tours, pour se poser dans New York ». Donc, évidemment, il y a eu un courrier des lecteurs un peu important, parce que les gens croyaient qu'on imprimait et dessinait les histoires en une semaine. Surtout, moi, je me suis retrouvé à dessiner la fin de cet album, qui, en effet, avait des résonances avec l'actualité. Et surtout, à dessiner quelque chose qui était... un rêve absolu pour un Ben Laden. C'est-à-dire non pas faire tomber le World Trade Center, mais faire basculer les plaques tectoniques au niveau de New York et voir à la fin la Terre s'éventrer en deux. La victoire absolue contre les mécréants. Et on se pose la question à ce moment-là. On se dit, tiens, mais Ben Laden, il a eu ses idées où ? Il les a eues en regardant les films américains à grand spectacle, où en effet, Bruce Willis arrive à éviter que le World Trade Center s'effondre, mais... Il y a un goût de la destruction dans le grand spectacle. On aime ça. Ça fait partie du. On aime se faire peur. Et d'un seul coup, je me suis dit, avec quoi tu joues ? Je savais que mon propos principal était de parler de la bêtise humaine et notre capacité à s'autodétruire. Mais tu es en train de créer des images qui vont faire fantasmer les tarés. Est-ce que tu dois faire ça ? Est-ce que tu dois le faire? Est-ce que même, tout bêtement, est-ce que tu dois dessiner les deux tours, puisqu'elles n'existent plus? Parce que symboliquement, tu les refais fantasmer, à les remontrer et à montrer qu'on peut les détruire vachement mieux. Et vraiment, c'est des questions qui m'ont bloqué pendant 2 ans. Je n'ai pas dessiné pendant 1 an et demi après. Parce que je me suis vraiment interrogé sur l'impact que je pourrais avoir. Pas moi tout seul, évidemment, parce que je fais pas Star Wars, mais je sais bien que je participe d'une communauté de créateurs qui, tous ensemble, a un énorme pouvoir. Et voilà, ma position dans cette communauté de créateurs, le poids que j'allais mettre, moi, bah, l'air de rien avec, mais je sais pas, un Universal War One, c'est 150 000 ou 200 000 lecteurs à la fin, quoi. Enfin, pardon, acheteurs. Donc on doit être, on sait que les livres de BD sont lus 4-5 fois, on est à 1 million de personnes qui vont lire ça, quoi. C'est pas du tout négligeable, hein. On n'est pas du tout en train de semer des idées dans la tête de quelques inconnus, hein. C'est des vrais impacts. Et je sais que j'ai repensé à l'époque à La Planète des Singes. Le film d'origine, cette scène finale de la Statue de la Liberté coupée en deux, posée sur une plage, avec Charlton Heston qui, pendant tout le film, a cru qu'il était le meilleur de tous les hommes et que les singes étaient des imbéciles et que Zaius, le orang-outan savant qui disait « les hommes horribles, machin truc chouette » avait tort et qui découvre à la fin que les hommes se sont entretués dans le feu nucléaire, probablement. Et je me suis dit, voilà, ok, c'est aussi une image horrible. Ça peut faire fantasmer des imbéciles de couper la Statue de la Liberté en deux, mais dans le fait, il est très probable que ce film ait fait 1000 fois plus pour le désarmement nucléaire que tous les écrits les plus intelligents qu'on a pu faire sur le sujet.
De toute façon, la nature a horreur du vide. Donc, quitte à traiter cette idée, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui le fasse intelligemment plutôt qu'en effet quelqu'un qui traduise une espèce de fantasme malsain et qui fasse passer tout ce qu'il y a de nauséabond avec.
En même temps, au niveau du cinéma, il y a quelques grands films, et ça je vais après poser la question à Alain, on a des films comme Soleil Vert, qui avait beaucoup marqué les esprits dans les années 70, plus récemment dans les années 2000, il y a Minority Report, qui est un film aussi qui dit beaucoup de choses. Est-ce que les films de science-fiction peuvent aussi dénoncer des choses et avoir un impact au niveau du public très concrètement?
Heureusement, encore une fois, je dirais, et même de manière encore plus forte que, il faut le dire, moi c'est 500 exemplaires, bon, et donc à peu près 450 lecteurs, parce qu'il y en a qui ne lisent pas. Tandis que. oui, c'est vrai, il y en a quelques-uns qui sont empruntés à une bibliothèque. Donc nous, notre impact est très très faible, le vôtre est plus fort, mais un film a évidemment un impact. C'est-à-dire, Soleil Vert, quand c'est sorti, ça a été une claque pour toutes celles et tous ceux qui l'ont
vu. Ça tourne encore dans les écoles.
Hein. Et bien sûr, et ça tourne chez moi. Je donne comme exemple, quand je dis l'avenir de la planète, réfléchissons ensemble. Aujourd'hui, l'écologie, etc., etc., les sommets, Rio, etc. C'était déjà tout dans Soleil Vert. Souvenez-vous, pardon Denis, juste, il y a deux images, enfin, il y a plein d'images très, très fortes dans Soleil Vert. Il y a les images, donc on est à New York, et les rues sont envahies par des voitures, plein de voitures qui rouillent, qui sont le symbole de la civilisation contemporaine de l'époque, qui sont le symbole de la civilisation américaine, puisque la civilisation américaine, c'est la route et la voiture. Et il y a un des héros du roman de Harrison, le roman s'intitule, maintenant il s'intitule Soleil Vert, mais au départ c'est Make Room, faites de la place, puisque c'était une dénonciation en fait de la démographie galopante. Il y a un des héros qui dit, on a fait des voitures, des millions de voitures, et maintenant qu'est-ce qui reste de nous? Des épaves qui rouillent, hein, c'est tout. Et ça, c'est une image forte. Et il y a une deuxième image qui est très forte, je pense, il y en a peu parmi vous qui n'ont pas vu Soleil Vert, c'est quand ils vont, à Central Park. Hein. Central Park, il ne reste plus rien, il y a une tente gonflable, hein, dans laquelle on injecte de l'oxygène, et dans lequel il y a 4 plantes dans un pot, hein, et il y a les familles riches qui, à tour de rôle, amènent leurs enfants, ils ont droit à un certain temps, pour regarder les plantes vertes qu'il y a dans la... Et ça, on nous dit, le message, c'est est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on en arrive là? Et donc, la capacité de dénonciation de la science-fiction est forte. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ni les politiques, ni les... Je vais utiliser le terme de Denis, ni les corporations ou les transnationales qui participent au grand processus de j'allais dire, de production capitaliste, mais non. J'ai un collègue, donc Jean-Pierre Garnier, qui lui dit, il ne parle pas de processus de production capitaliste, mais de processus de destruction capitaliste. On va au plus court, au plus pressé, on produit, et puis demain, c'est demain.
Il y a quand même une influence. Je crois que la dernière production, alors c'était pas un film, c'était une série, mais justement qui a eu un très fort impact, je veux dire un impact vraiment violent, c'était La Servante écarlate. Je le dis pas en anglais parce que j'ai un accent épouvantable, mais où justement après cette dystopie qui a quand même frappé très fort, je crois, l'adaptation donc de ce roman de Margaret Atwood, même s'il date de 80, des années 80, a été parfaitement remis au goût du jour. Et par exemple, on a vu, il y a des femmes qui se sont habillées en servantes écarlates pour aller justement protester contre des lois anti-femmes aux États-Unis, parce qu'à l'heure actuelle, les droits des femmes reculent sur la planète. C'est quelque chose, voilà, c'est pas un ressenti, c'est quelque chose qui a été calculé. Donc les droits des femmes reculent, et donc elles sont allées manifester leur désaccord justement dans cette tenue. C'est le moment où la science-fiction fait irruption dans la vie politique, et ça se produit quand même de temps en temps. C'est la force des œuvres.
Je pense que Black Mirror a eu quelques épisodes. Merci. Toute personne qui a vu l'épisode sur la notation individuelle de
saison 3, épisode 1.
Voilà.
Un épisode à voir.
Il faut voir cet épisode-là. Et cet épisode, à mon avis, est le pire cauchemar pour Facebook et compagnie.
Tu peux le pitcher peut-être pour les gens qui l'ont pas vu.
Rapidement, en gros, on voit les gens se notent les uns les autres en permanence. C'est-à-dire que si on n'est pas content de la petite relation qu'on a eue avec quelqu'un, on lui baisse sa note. Et donc les gens ont une note, et plus la note est haute dans la société, plus on accède à des choses. Parce que quelqu'un qui a une note de 5 sur 5.
Un crédit bancaire.
Voilà, les banquiers adorent ces gens-là. En plus, c'est des gens qui ont
un emploi, un
appartement. On retrouve les phénomènes des gens qui ont plein de followers. C'est un mélange du nombre de followers et de la bonne note sur TripAdvisor. Enfin, on est dans l'idée. Et c'est ça entre les gens. Et chaque relation sociale devient notée. Pas seulement le fait que le chauffeur de taxi n'est pas sympa. C'est sa copine qui n'a pas été sympa dans l'ascenseur. Et vraiment, je pense que cet épisode, il va continuer à être vu, et il est en train de faire des dégâts absolus sur la culture de la note. Et ça, c'est formidable. Et je pense qu'on pourra noter cet épisode, dans un...
Mais même à l'heure actuelle, enfin, il y a quand même beaucoup de réflexions sur justement à quel point la note, c'est quelque chose de nocif. Ne serait-ce que sur le plan scolaire,
oui.
Sur le plan des jeunes gens, des jeunes élèves, et c'est quelque chose. Enfin, c'est une discussion qui n'avait pas lieu justement il y a encore quelques années. Je me demande si c'est pas concomitant justement à ce système de notation qui envahit tout.
Attends, regardez cet épisode, montrez-le aux gens. C'est vraiment, c'est une mise en garde absolue sur ce qu'on est tous en train de faire malheureusement sur Facebook et compagnie, entre nous, sans s'en rendre compte, quoi.
Ce qui est intéressant, donc on voit ça au niveau... Il y avait une conférence hier sur les séries télé de science-fiction, et ce qu'on voyait, c'était une recrudescence de dystopie en ce moment. La Servante écarlate, Black Mirror qui est entre l'anticipation et la dystopie. Et on voyait aussi, on va dire, un revival Philip K. Dick, surtout en ce moment. Est-ce que Alain Musset a vu le dernier Blade Runner ?
Alors, oui, évidemment. Là, sur 2049, c'est... Là, on risque de spoiler. Donc,
on spoile rien pour ceux qui n'ont pas vu.
Voilà, exactement.
Mais qu'est-ce que ça dit sur le monde, surtout ?
Mais le problème de Blade Runner, enfin du dernier, c'est que on aboutit à dénoncer des situations contemporaines, mais qui ont déjà été dénoncées il y a 30 ans, il y a 40 ans, et il y a même 50 ans. Philip K. Dick ou quelqu'un comme Silverberg ont dénoncé en leur temps des choses qui sont tout à fait d'actualité. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien, même que c'est mal. Et alors, je suis désolé, mais on continue. On n'a pas changé nos pratiques. On n'a pas changé notre façon de vivre. Or, c'est ça qu'il faudrait envisager de faire. Changer nos pratiques. Je vais donner un très bon exemple, et comme ça j'aurai une bonne note. C'est le président des Utopiales, Roland, qui était là tout à l'heure. Il a décidé, et à juste titre, de limiter ses voyages en avion. Et compte tenu de l'empreinte carbone que je représente en avion, eh bien, je fais un grand voyage en avion par an, j'en fais pas deux. Alors, évidemment, moi, ça m'embête parce que mon terrain, il est en Amérique latine. Donc si je commence à limiter mes voyages, j'ai commencé à les limiter, mais pour des raisons de santé. Donc comme quoi ça va bien. Mais effectivement, c'est un petit peu embêtant, parce que si je dois prendre le bateau pour aller sur mon terrain, vous imaginez que ça représente. Mais de toute façon, je l'ai dit à mes étudiants, hein, ce ne sera pas pour cette génération, mais ce sera pour la prochaine. Il faudra penser de manière différente vos terrains. Terminez le temps où vous allez prendre l'avion, passer 15 jours en Argentine, et vous allez revenir. Dans 50 ans, si tout va bien, si on est encore là, mais alors là, c'est Denis qui nous dira si on est vraiment encore là dans 50 ans. Vous allez partir en bateau à voile, bien évidemment. Votre voyage va durer 15 jours, hein, au minimum. Ensuite, vous allez rester sur le terrain, mais vous allez rester au minimum 4 mois, parce que bon, si c'est pour juste faire l'aller-retour, c'est pas là. Vous reviendrez, ça durera encore 15 jours, mais ce ne sera pas du temps perdu. Parce que pendant les 15 jours de bateau, comme alors là, avec les systèmes de communication, eh ben vous pourrez continuer à donner des cours, vous serez en communication Skype ou futur Skype ou je ne sais pas quoi, etc. Donc vous ne serez de toute façon pas déconnecté. Après, vous ferez votre terrain sur place et vous rentrerez toujours en donnant des cours. C'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de vivre. Hein, et je crois qu'encore une fois, la science-fiction nous donne des pistes, hein, ou la science-fiction, ou la fantasy, ou le steampunk, tout ce qu'on voudra, pour essayer de penser de manière différente. Et d'agir de manière différente.
Denis.
C'est donc je suis le pessimiste. mais oui, c'est vrai, parce qu'en fait, j'ai toujours lu l'ESF depuis que je suis gamin. Et j'en ai lu vraiment des tonnes. Et j'en ai vu des tonnes, j'ai réfléchi à des tonnes, et je vois les thèmes revenir en boucle, en permanence. Pour parler de Soleil Vert, par exemple, film qui marque énormément les années 70. Dans les années 80, ça commence à plus être trop à la mode. Quand on le montrait aux enfants des années 90, ça passait pas. Et puis alors là, dans l'ensemble, ça passait pas. Puis alors là, on avait Jeanne, la directrice artistique du festival, qui nous disait que là, avec ses élèves, maintenant, ça a remarché à fond soudainement. Parce que sans doute, il y a eu beaucoup de discours sur l'environnement ces derniers temps, et que ça vient coïncider avec des choses qu'ils ont entendues. On voit que ces idées reviennent, mais en effet, moi, je ne vois pas le changement. Alors, on aurait dû mettre des milliards sur le fait de passer à l'électrique, on ne l'a pas fait.
Alors, Audrey. J'aimerais bien rebondir là-dessus, justement, parce que ce que tu dis sur les années 90 par rapport à aujourd'hui, c'est très intéressant. Je pense qu'on est dans une... Enfin, je pense qu'on est tous en train de choisir nos combats. On ne pourra pas être de tous les combats, mais ce que je vois sur... je ne vais même pas dire les jeunes générations, mais sur, on va dire, cette décennie-là, c'est favorisé par les réseaux sociaux, mais je pense qu'on est tous en train de devenir militants d'une façon ou d'une autre. Alors, ça pose certains problèmes avec des gens qui militent pour des causes, voilà. Mais on est de plus en plus nombreux à vouloir devenir végétariens ou, comment dire, il y a ceux qui s'interrogent justement sur les déplacements, sur l'empreinte carbone, sur consommer local, sur ceci, sur cela, qui mettent leur bulletin de vote dans leur assiette. Et, enfin... Justement, c'est intéressant ce que tu dis sur les années 90, parce que ça m'arrive d'être avec mon oncle et ma tante, par exemple, je leur dis non, moi, j'aime pas qu'on m'offre des fleurs parce que ça assèche un lac au Kenya. Il y a des gens qui crèvent de la pollution des fleurs au Pakistan. Donc, je n'aime pas qu'on m'offre des fleurs, sauf si elles viennent de votre jardin. Et ils me répondent, mais tu crois qu'à ton âge, on se posait ces questions? Et quand ils m'ont sorti ça, je leur ai répondu, mais c'est bien ce qu'on vous reproche. Et je crois, mais en même temps, je suis peut-être un peu injuste à leur jeter la pierre. C'est vrai que c'était une époque où les questions ne se posaient pas. Alors, on peut estimer qu'en effet, l'humanité est lente à réagir, mais je crois qu'en fait, quand même, aujourd'hui, il se passe quelque chose. Je connais très peu de personnes autour de moi qui ne sont pas du tout engagées dans une cause ou une autre. Après, on ne peut pas être de toutes les causes, évidemment.
Alors, tu as la chance de vivre dans un milieu engagé. Parce que la grande majorité de la population, elle est dans les hypermarchés à faire des courses et elle se fout de tout ça. Si les gens s'intéressaient un tant soit peu au sort de leurs proches, la crise du lait serait réglée. Hein. Les gens auraient boycotté Lactalis, par exemple, qui a été un des grands acteurs de ça, en disant « Stop, on veut que les agriculteurs puissent bouffer au moins du travail du lait avec les vaches ». Donc non, la grande majorité, malheureusement, on est nous dans des milieux favorisés, les auteurs, déjà on est entre auteurs, et puis après autour de nous on a des professeurs, on a des gens assez éduqués, et je pense que par affinité, en plus, on est arrivé avec des gens qui ont une envie de progrès, quand on regarde de fait le comportement du troupeau en général, et je me mets dedans, hein, parce que là par exemple je porte un t-shirt, je n'ai aucune idée d'où il vient. il est probable qu'on ait exploité des ressources naturelles de manière démesurée, peut-être même des enfants, pour que je puisse le porter. Donc je suis couvert de sang des pieds à la tête, j'en suis persuadé.
On ne peut pas être de tous les combats.
Voilà, on ne peut pas être de tous les combats. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe tous notre temps à être de quelques combats quand on a des combats, et que la grande majorité des combats, ils ne peuvent être menés bien que par la sphère politique. C'est son rôle de faire que tous les combats soient menés. Ce n'est pas le rôle de l'individu dans la société, on doit les motiver.
Mais... Je ne crois pas que les politiciens mènent les combats. Je crois que les politiciens réagissent à la pression de ceux qui mènent les combats.
Oui, mais ça, c'est dommage. Leur rôle... Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un gros problème sur cette planète de saturation.
Oui.
Et ils ne prennent pas la décision d'appliquer partout et de la bonne manière au maximum des solutions pour en sortir. Et il y a un moment, on ne peut pas les forcer à faire leur boulot. Leur boulot, c'est ils ont des experts, vous en faites partie, partout, qui ont dressé le tableau de manière très fine et on le connaît exactement. Et la réponse qu'on a, c'est Trump qui dit « Ouais !» Non. C'est pas possible, quoi. Enfin, moi, je
il le dit avec plus de gros mots.
Oui, il le dit. Non, j'arrive pas à être Trumpien. Je vais essayer de travailler ça. Et
avec un hashtag aussi.
Alors, Trump, c'est facile, c'est la caricature. On est dans le cauchemar du politique dévoyé à son propre service. Hein. Pour Trump, c'est la seule cause qui compte, c'est Trump, on l'a compris. Hein. Mais il fera même pas le mur entre le Mexique et les États-Unis, quoi. C'est qui était sa promesse centrale, quoi. Ce qui aurait pu relancer l'industrie du béton, ça aurait eu des bons côtés. Mais. Non, elle n'en a pas besoin. Mais...
On verra, c'est pas sûr. Parce que moi, excuse-moi Denis, mais c'est un de mes terrains. J'ai travaillé longtemps à Tijuana, hein, donc là où le mur passe. Le mur existe déjà en grande partie, premièrement, sur à peu près 1000 km. Je veux dire, il reste 3600, mais 2600, je veux dire, mais il existe déjà. Les images qu'on vous montre à la télé, j'ai vu un reportage qui était pourtant sur Arte, qui était faux. On vous disait, le mur, il est tout décati, tout pourri, etc. Des endroits, oui, mais d'autres endroits où il y a le mur décati et pourri. Et puis derrière, il y a déjà un nouveau mur qu'ils appellent la Smart Border. Donc c'est un mur qui existe et puis qui est...
une frontière électronique, oui.
La frontière électronique. Et à Tijuana, les collègues me disaient, ce qui est de terrible, c'est que maintenant, quand les enfants dessinent, ils font des dessins, ils dessinent la ville... Hein, et puis dessine le ciel. Et dans le ciel, au lieu de mettre des oiseaux, ils mettent des drones. Ouais. Oh. Parce que c'est des drones de surveillance. Hein? Donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Donc ce mur-là existe déjà en partie. Et puis de toute façon, il faut voir, il y a un superbe film. C'est un petit film, c'est dommage, parce qu'il n'avait pas assez de budget, d'Alex Rivera, qui est un Mexicain d'ailleurs, qui s'intitule « Sleep Dealer ». Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous le conseille. C'est dans le futur et ça se passe à Tijuana. Et le truc génial, c'est qu'il y a des maquiladoras, c'est-à-dire, vous savez, les usines de construction qui sont... Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont complètement connectées et les Mexicains restent du côté mexicain de la frontière et travaillent de manière virtuelle en étant connectés à des robots de l'autre côté de la frontière. Et là, le propriétaire de la maquiladora dit « C'est génial ». Les Américains, ils ont tout ce qu'ils ont toujours voulu avoir. Le travail des Mexicains, sans les Mexicains. Génial.
Je recommande aussi un très très bon documentaire sur France Inter qui est passé il y a quelques semaines d'Interception sur cette question du mur où ils avaient fait un très très bon reportage. Il nous reste environ un peu moins de 10 minutes pour prendre des questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Alors, voilà. On vous a vu, monsieur.
Allô. Ouais. Je pense à une bande dessinée d'anticipation. Je crois que ça s'appelle Gypsy. Je suis plus exactement sûr de qui est l'auteur. Peut-être Marini.
C'est ça, Marini.
Et Paul de Rennes.
Et donc, il évoque un futur sans avion dans lequel une grande route gigantesque va traverser le Pacifique par le pôle après la fonte des glaces. Et puis, tous les continents, donc les deux extrémités étant Paris et New York. Et donc, par rapport à l'impact que peuvent avoir les auteurs de bandes dessinées dans la géopolitique, on voit bien que la Chine est en train de construire cette route telle qu'elle est présentée dans l'œuvre de bande dessinée. Le tracé est relativement identique. Et donc peut-être que les auteurs de bandes dessinées comme vous devraient traduire leurs œuvres en chinois, peut-être. Et ont-ils vocation à faire partie des think tanks qui vont décider de l'avenir du monde? Et dans ce cas-là, comment augmenter votre impact sur l'avenir du monde pour partager vos idées?
C'est des questions qu'on peut se poser. Moi, hier, j'étais en think tank avec l'armée. Il s'avère qu'il y a eu un think tank ici avec la marine et la direction générale de l'armement et des auteurs de SF. Donc je ne dénoncerai pas les autres traîtres, mais nous étions plusieurs auteurs de SF avec... Moi, je me suis posé la question avant. Est-ce que j'ai envie de nourrir les militaires? C'est une vraie question. Hein. Y a la moitié de moi qui est un citoyen qui sait qu'il y a des dangers réels autour de nous et des vrais ennemis. Hein. Il y en a quelques-uns qu'on a quand même bien identifiés et qui a plutôt envie de participer à la défense de mon pays. Et puis, il y a l'autre moitié en moi qui s'inquiétera toujours de leur donner l'idée de créer Skynet et Terminator. Hein. Donc, c'est très ambivalent. On est toujours à se demander à quoi vont servir nos idées. Est-ce qu'elles vont être positives ou pas? Donc, je pense qu'on les sème, on essaye de les poser dans un cadre, je dirais pas moral, mais avec des valeurs réelles, avec une construction.
Je crois qu'on peut dire moral, faut arrêter de laisser le mot moral justement aux...
À l'extrême droite, peut-être, oui.
Oui, voilà, parce que justement, eux, ils l'ont pas, la morale. Donc, oui.
Donc voilà, et espérons que le fait que ce soit fait dans ce cadre-là feront que ces idées ne seront pas utilisées contre les valeurs que voulaient défendre ces idées. Mais on n'est pas là non plus pour aller nourrir directement l'industrie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui sont en capacité de récupérer nos idées, c'est l'armée et les grandes corporations. J'ai entendu le budget de la DARPA, qui est un des groupes de recherche de l'armée américaine, c'est 3 milliards tous les ans. 3 milliards. C'est beaucoup plus que le budget de l'édition en France. Ah, voilà, ça remet les idées en place. Quoi.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, hein? Oui. Alors, si, ça, on entend, hein, c'est bon.
Oui, alors moi, c'était une question sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les différents combats que devaient mener les politiques. En fait, s'ils se battent, par exemple, pour le droit des femmes, pour le développement durable, tout ce genre de choses, on a remarqué ces derniers temps qu'il y a certains problèmes que les politiques sont censées gérer, c'est-à-dire la sécurité, normalement, par exemple, ou ce genre de choses, qui sont normalement les principes de base, l'éducation, et que les politiques n'arrivent plus à gérer. Et du coup, la question que j'avais, c'était, est-ce que, du coup, pour régler ce problème-là, au lieu de se battre pays par pays, c'est en fait ne plus vraiment avoir la notion de pays?
Audrey ?
Il n'y a rien de moins naturel qu'une frontière. Enfin, je veux dire, une frontière, ça n'existe pas. Elles sont toujours symboliques. C'est vrai que quand on parle de passer une frontière, il n'y a pas un trait qui est dessiné par terre. Donc, dans l'idéal, oui. Je pense que, d'ailleurs, c'est un des problèmes. Enfin, une grande partie des mots viennent de la solution qui est en train de se mettre en place. Bon, moi, je suis optimiste, une fois encore, hein, je le précise. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent de penser justement les soucis politiques que nous pouvons avoir en termes de nation. C'est-à-dire qu'on pense en tant que Français, on est déjà dans une logique ultra globale, en fait. On est déjà dans une logique mondiale. Et en fait, évidemment, qu'on subit toutes les influences extérieures. C'est marrant, je crois que je vais citer Bernard Werber. J'avais lu un de ses bouquins, je ne me rappelle plus lequel, mais il parlait de l'évolution des civilisations, et il y avait une idée qui était très intéressante. C'était que, alors, c'était des apprentis dieux qui devaient faire chacun naître leur civilisation, mais c'était sur la même planète. Et en fait, quand il y en a un qui donnait trop d'avance à un peuple, en fait, ça finissait par créer, mais c'est le mythe de l'Atlantide, en fait, hein, ça finissait par créer tellement de remous que finalement, les autres arrivaient à lui latter la tronche, en fait, et grosso modo, c'était retour à la case départ. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire évoluer quelque chose, on le fait plus sur une toute petite échelle, on le fait sur une très grande échelle. Et du coup, c'est sûr qu'en termes d'égalisation, bah, ça crée beaucoup plus de remous, c'est beaucoup plus problématique, c'est beaucoup plus complexe. Je pense qu'on n'a pas encore pris l'ampleur de cette complexité, et c'est peut-être ça qui crée en fait justement cette angoisse terrible qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'auteurs de SF qui détruisent la planète, parce que ça crée une espèce d'angoisse en chacun de nous, parce qu'on n'a pas encore pris l'ampleur de la mesure du problème.
J'ai le droit d'être déprimant?
Vas-y.
Alors, je vais vraiment être déprimant. Moi, mon sentiment personnel, c'est que, à l'image du téléphone qu'on pouvait réparer avec trois bouts de tournevis il y a encore 30 ans quand il était filaire, et qui aujourd'hui est un objet incroyablement complexe qui permet de faire des choses hallucinantes, mais dont personne sur Terre n'est capable de comprendre comment il fonctionne réellement, j'ai l'impression qu'on a atteint un niveau de civilisation qui nous dépasse. Qu'on a été beaucoup trop loin dans beaucoup trop de domaines, et pas seulement le nucléaire, le machin, mais dans tant de domaines qu'aujourd'hui on est dépassé. Et je pense que c'est le genre d'analyse qui pousse une partie des GAFA, des Google et compagnie, à croire que la solution sera dans l'intelligence artificielle, tellement intelligente qu'elle arrivera à englober tous les problèmes et à trouver des solutions globales. Mais moi, j'ai une sourde inquiétude sur le fait qu'on soit dépassé.
C'est les mêmes qui sont en train de créer des îles, justement, artificielles. On referme la boucle avec le début. Ou pour se planquer, une fois que l'humanité sera vraiment partie dans le mur.
Ou leurs IA trouveront des solutions, ou ils se planqueront. Mais ils ont, en tout cas, je pense, très nettement le sentiment, le même, que nous sommes totalement dépassés par notre civilisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a construit un truc trop gros et trop complexe pour nous.
Alain Musset, le mot de la fin, une minute.
Le mot de la fin, c'est trop gros et trop complexe. Alors là, je vais être optimiste. C'est ce que pensaient aussi les Romains. En disant que c'était devenu trop gros et trop complexe. Et c'est pour ça que l'Empire s'est effondré. Mais sur les ruines de l'Empire, sont nées plein de civilisations dans la nôtre. Donc, il arrive toujours un moment où la civilisation arrive à un mur. Hein, et je terminerai en citant Paul Valéry, après la guerre de 14-18, « Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. On le sait, mais on sait aussi qu'on peut ressusciter. »
Très bien, merci beaucoup. Alors, on peut retrouver les livres de Denis Bajram, Audrey Aulouette et Alain Musset en librairie. Et pour, si vous voulez soutenir le modérateur, soutenir son magazine Le Point Pop spécial Harry Potter. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.